Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio de Rage, voix de jeunes, bonjour, Zulf Lawan, Amsalkhair alaikum, bienvenue une autre fois sur la web radio de Rage, voix de jeunes. Cette fois-ci, comme vous le savez, à l'occasion du 29e anniversaire du mouvement d'octobre 88, la web radio de Rage a programmé une série de rencontres, de débats avec des acteurs associatifs, des acteurs syndicaux, politiques, des universitaires, et autour du mouvement d'octobre 88 pour connaître un peu le mouvement et discuter surtout des acquis d'octobre 88. Donc cette fois-ci, dans cette émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Qadi Ihsan, qui est un journaliste. Il est aussi directeur du Maghreb émergent. Il était un militant politique durant les années 80, au cours de durant le mouvement d'octobre 88. Donc nous, bonjour monsieur.
Bonjour. Adarsan. Merci pour l'invitation.
Et il y a aussi monsieur Sami Ousdeq, qui est un ancien banquier financier, les coordinateurs du mouvement Ibtikar. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Et aussi avec nous monsieur Hossein Belaloufi, qui est journaliste, essayiste. D'ailleurs, je signale qu'il a publié il y a quelques années un livre important qui s'appelle sous le titre « La démocratie en Algérie, révolution ou réforme ». Bonjour Monsieur Hossein.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Voilà, donc 29 ans après octobre, donc un certain 5 octobre 88, les jeunes Algériens sont sortis dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol, pour le refus de la situation que vit, parce que là, à l'époque, l'Algérie traverse une situation de crise multidimensionnelle. Donc après ce mouvement tragique qui a connu la mort des centaines, bon, les chiffres n'est pas connu officiel, réel jusqu'à ce jour, des centaines de jeunes.
Officiellement, c'est 159.
159, mais de ceux qui, ceux qui parlent qu'il y a plus de 500 personnes qui sont assassinées. Donc après ce mouvement tragique, donc l'Algérie a rentré dans le pluralisme. Donc il y a des acquis démocratiques qui sont arrachés. Donc voilà la première question que je peux poser. Bon, je peux commencer par M. Qadi Ihsan. Ça veut dire, qu'en est-il de ces acquis démocratiques arrachés après octobre 88, 29 ans après, donc, sur le terrain?
Ce qu'il en est, c'est que certains sont toujours là. La preuve, c'est qu'on a cette possibilité de parler dans un cadre associatif. Ce n'était pas possible avant octobre 88, il faut bien l'avoir en tête. Complètement impensable. Il y a un pluralisme formel des partis politiques, il y a un pluralisme formel des médias, il y a la possibilité d'organiser des associations, le syndicalisme est supposé être pluraliste aussi. Donc de ce point de vue-là, il y a des acquis, c'est évident, ils ont été largement érodés durant les années 90, mais encore plus durant les années de Bouteflika. Mais le mouvement était tellement fort et tellement puissant, et la société algérienne a eu assez de ressources pour les préserver en dépit de tout ce qui est arrivé depuis la guerre civile et le retour de l'autocratisme avec les années Bouteflika. Donc voilà, les acquis sont toujours là. Est-ce qu'ils peuvent servir de base pour un nouvel élan démocratique dans l'avenir? Moi, je pense que oui, parce qu'on partira de moins bas qu'en octobre 88. Donc, à mon avis, il faut se réjouir de ces acquis-là, même s'ils ont été très fortement érodés.
Très bien. Donc, la même question pour M. Sami.
Écoutez, effectivement, je rejoins Qadi Ihsan dans la notion des acquis. Je dirais qu'il y a beaucoup d'acquis formels. Il y a beaucoup moins d'acquis réels. En fait, un des enjeux, c'est de faire de ces acquis formels qui ont été conquis des acquis réels. Et je m'en explique. Il y a eu pendant longtemps la possibilité d'avoir des partis, des associations. Cela s'est réduit depuis, comme il a été dit, depuis quelques années, hein, depuis maintenant moins une dizaine d'années. Or, il se trouve qu'il va falloir redonner vie à ces acquis qui ont été arrachés et qui n'ont pas été octroyés. Je crois qu'il y a un moment qui est important dans l'histoire d'une nation, et le 5 octobre, qui a maintenant bientôt 30 ans. Imaginez, déjà au moins deux générations sont passées, on est encore en train de parler du 5 octobre. Ça veut dire que c'est une date importante et que les acquis qui ont été on a débuté à les arracher, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de deux générations à les rendre concrets. Bien évidemment, nous savons pourquoi. Et je dirais qu'il y a un moment, moi je disais à cette époque-là, moi j'étais jeune à cette époque-là, c'est issu de notre génération avec le Qadi Hassan, notre ami, je me suis dit, les Algériens sont sortis dans la rue, il va être difficile de le faire remonter chez eux. Ça veut dire que c'est instaurer une culture, je dirais, de défi par rapport à la difficulté de la vie. Bien évidemment, la guerre civile est arrivée et a un peu rompu tout cela. Mais quand vous voyez toutes ces, je dirais, toutes ces manifestations en dehors d'Alger ou des grandes villes, on en parle parfois dans la presse, cela a été possible à partir de 88. Avant, il y avait quelques foyers, quelques fois. Maintenant, c'est, je dirais, la voix du peuple dans la rue a commencé à avoir de sa valeur.
Oui, donc Hussein, il y a ces acquis qui sont arrachés, mais 29 ans après, c'est tout le monde qui parle de recul. Donc, sur le plan liberté d'association, action politique, partisane, syndicale. Et...
Oui, je vais pas répéter ce qui vient d'être dit et que je partage, à savoir qu'effectivement, avec octobre 88, on a cessé d'être en dictature, parce qu'il faut pas banaliser... effectivement l'acquis par rapport à ce qu'on a vécu avant, où il était interdit de faire grève, interdit de s'organiser en association, interdit de s'exprimer, etc. Donc on a cessé d'être en dictature, mais on n'était pas en démocratie. C'est pour ça qu'on parlait de transition. Et cette transition, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un objet de lutte, avec des avancées du mouvement populaire et des reculs. Par exemple, si on prend 2001, moi je l'ai analysé comme un retour avorté de la question démocratique. C'est-à-dire qu'après la décennie de la guerre civile, en 2001, il y a un mouvement populaire qui repose la question démocratique et qui malheureusement n'aboutit pas. Et depuis, les libertés démocratiques sont en jeu de lutte. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le saut qualitatif pour arriver à ce que le régime politique soit l'expression, l'émanation de la volonté populaire, de la souveraineté populaire librement exprimée. Donc on n'est toujours pas en démocratie, mais il reste encore des libertés démocratiques. Et on le voit à Bjaïa ces jours-ci, etc. Il y a des luttes. Et donc l'objectif, c'est effectivement de partir de ces luttes pour essayer de construire, de reconstruire un mouvement populaire plus fort, comme le disait Yassine, pour qu'ensuite on puisse repartir à un niveau qualitatif supérieur.
Très bien. Donc là, je vais parler sur les origines de ce mouvement. Parce qu'à chaque fois, à chaque commémoration, donc il y a des déclarations officielles un peu partout. Ils disent, voilà, il y a ceux qui disent que c'est un mouvement spontané. D'autres, il y a de la manipulation, il y a du complot, il y a de la lutte entre des serviteurs au sein du pouvoir. Donc pour régler leurs problèmes, c'est à travers ce mouvement. Donc il y a la théorie du complot. Ça veut dire, selon vous, est-ce que... ça veut dire, qu'en est-il réellement de cette hypothèse? Est-ce que, ça veut dire, le peuple algérien, ça veut dire, on peut dire, et ça veut dire, c'est facile à ce point de manipuler, juste de vouloir faire sortir les Algériens, si les conditions ne sont pas réunies pour que les Algériens puissent sortir dans la rue? Voilà, donc, la question qui... c'est pour vous tous.
Oui, alors... Il faut peut-être revenir dans le contexte. Hein.
Oui.
En 88, on est en octobre 88, on est en train de rentrer dans la troisième année de contre-choc pétrolier. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque aussi. L'économie algérienne est extrêmement liée au secteur public. Il y a le secteur privé très faible et donc au budget de l'État. Et dès que le budget de l'État est touché, il y a un quasi-collapse de l'économie. Le taux de chômage est passé de moins de 10% à plus de 30% en 2 ans. On est dans un contexte où donc, la question sociale devient explosive très vite. Devient explosive, notamment pour le chômage des jeunes. Alors, si on était en configuration semi-démocratique d'ouverture, comme on peut l'être aujourd'hui, peut-être que des soupapes auraient pu fonctionner pour éviter qu'il y ait une explosion. Il se trouve qu'on n'était pas dans ce contexte. On était dans un contexte de dictature. Hossein Belalouchi vient de le rappeler, c'est le terme qui convient. Et donc, il n'y avait aucun canal possible d'expression des revendications populaires par les syndicats, par les organisations de jeunes, par toute forme de mouvement auto-organisé. C'était impossible. Il y avait eu déjà une première manifestation de ce type d'expression avec le printemps berbère en 80-81, qui avait montré toutes les limites des possibilités de ce type de mouvement. Et on avait reculé, et donc il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des velléités dans la société. On peut les rappeler rapidement. Il y avait une aile dans l'UGTA qui essayait de casser l'article 120. Il y avait des espaces, le mouvement des journalistes qui essayaient d'ouvrir un peu dans la presse. Il y avait le rassemblement des artistes et des intellectuels qui essayaient de revendiquer une liberté d'expression plus forte, etc. Mais tout ça n'arrivait pas à faire un mouvement suffisamment fort qui aille à la rencontre de la colère des jeunes. Alors, le côté social, je finis rapidement sur ça, ça s'est exprimé par la classe ouvrière, puisqu'elle est au début du mouvement avec les grèves de Ruiba, donc du 3-4, du début de la semaine du 5 octobre, et puis relayée tout de suite par la colère des jeunes. Dans un autre contexte, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Donc on va dire, octobre 88 est possible, est tout à fait possible, on n'a pas besoin de manipulation, parce qu'il y a un recul de la situation, une dégradation de la situation sociale combinée à une absence de liberté, une crise également, une révolte anti-autoritaire. C'est toute une génération qui a envie, entre guillemets, de tuer le père. C'est la génération de l'indépendance, etc., qui a toujours été à la tête du pays, qui est pour la première fois contestée par les jeunes. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait une explosion de ce type-là. On n'a pas besoin de manipulation. Moi, je ne crois pas à la manipulation.
Très bien. Ça veut dire, après, rien n'empêche de... Ça veut dire, une fois il y a le mouvement, des gens, ça veut dire, des forces essayent de récupérer le mouvement. Donc,
d'en prendre la direction, la c'est direction, différent. C'est, oui. Les islamistes ont tenté d'en prendre la direction. Voilà, c'était de bonne guerre, à la limite.
La clé d'explication qui souvent revient, et puis c'est celle de la théorie du complot à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, à mon avis, est secondaire, parce qu'effectivement, Radi Hassan vient de exposé, les conditions objectives à ce que la situation s'enflamme étaient présentes. Et ça, c'est important à redire. Parce que passer par la théorie du complot, ça annule et annihile toutes les conditions réelles. Encore une fois, je pense qu'il est temps de considérer le peuple algérien, le citoyen algérien premier, comme quelqu'un de responsable. Il n'est pas juste, je dirais, un jouet à la main dans les mains de forces occultes. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas acteurs de notre destinée, hier, aujourd'hui et demain, il n'y a pas d'avenir pour nous. Cette idée de la manipulation, dès que quelqu'un fait quelque chose, ou dès qu'il y a un mouvement de masse ou autre, annihile toute possibilité d'un avenir. C'est pour ça qu'effectivement, moi aussi, je récuse l'idée que la manipulation et la théorie du complot soit l'élément explicatif de notre histoire, au-delà du 5 octobre. C'est se réapproprier le fait d'être des acteurs et des citoyens.
Oui, Hossein ?
Oui. Disons que ma lecture du processus, enfin d'octobre, c'est qu'il y a eu octobre et le résultat d'une explosion, enfin d'une fusion plutôt, de deux processus qui ont convergé tout au long de la décennie 80. Ces deux processus, c'est quoi ? Processus relativement autonomes l'un par rapport à l'autre, mais qui sont liés en même temps. C'est d'une part, comme le rappelait Hassan et Samy, la question des luttes sociales et politiques. Avril 80, les mouvements d'enfants de Chouhada, les femmes autour du code de la famille, le MCB qui prend son essor, les étudiants, etc., etc. Les luttes sociales. Parce que 82, 84, Alger, la Casbah, les chômeurs d'Oran, 85, 86, Sétif, Constantine, etc. Donc on voit ce processus-là. Et il y a un autre processus, c'est la crise du régime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à une manipulation, mais il y a une crise du régime. Et ces deux processus-là ont évolué de manière parallèle avec, à l'intérieur du régime, le débat autour de la libéralisation ou pas, les rythmes de la libéralisation ou pas, et un blocage à l'intérieur. C'est pour ça que je pense que je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas donner comme clé explicative le complot, mais en même temps, il y a des apprentis sorciers qui ont joué avec le feu et qui ont essayé d'utiliser le mouvement social et les révoltes populaires pour faire avancer leur combat politique interne au régime. Et je crois que c'est la fusion des deux
qui a fait que ça a provoqué une explosion. C'est-à-dire que je pense que la révolte est partie, comme le disait Hassan Khadi tout à l'heure, de Rouiba. Donc c'était un mouvement traditionnel de grève ouvrière dans le secteur public, etc. Le passage à la révolte comme ça des jeunes contre les commissariats, les symboles du FLN, contre l'autorité de l'État, etc. Je pense que là, il y a un lien avec la crise du régime. Il y a eu des tentatives d'instrumentaliser cette révolte-là pour faire avancer des projets politiques. Et je crois que c'est la fusion des deux qui a donné cette explosion.
D'accord. Donc, même si on constate aujourd'hui, 29 ans après, toujours la théorie du complot, elle revient. 2001, on dit qu'il y a de la manipulation. 2011, il y a de la manipulation. Donc, c'est une carte, effectivement, qui est utilisée beaucoup plus pour discréditer un peu le mouvement. Donc, mais le mouvement...
Enfin, on peut dire un mot sur on peut dire un mot sur les apprentis sorciers. Si on fait le tour, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul. C'est le président président Benjedid qui, le 19 septembre, fait un discours à la télévision et il appelle les Algériens à se rebeller contre les pénuries. Mmh. Et à la limite, c'est d'aller acheter, boycotter les prix, les produits qui sont chers, etc. Et la tonalité, le retour de flamme, c'est il a mis de l'huile sur le feu. Oui, c'était bloqué. Oui, peut-être qu'il a tenu ce discours pour essayer de faire bouger les choses parce qu'il n'arrivait pas à faire passer des réformes de marché. Mais je pense qu'il n'a pas pris effectivement la mesure de ce qu'il pouvait engendrer par ses propos, parce que effectivement il y avait une sorte de permissivité qu'il a créée. On peut protester parce que ça me dépasse à la limite en tant que chef d'État, ces blocages là. Après, quand on voit les dégâts que ça a provoqué, ça s'est retourné contre les symboles de l'État, contre Chedli Benjedid en personne, contre le FLN qui était son instrument de conduite politique et tout. Bon, ça montre tout de suite les limites de la démarche, c'est-à-dire le calcul, vouloir instrumentaliser et tout, ça s'arrête là. À mon avis, il y a une grosse erreur du président de la République de penser pouvoir parler comme ça dans un contexte dont il n'a pas mesuré l'inflammabilité, le caractère inflammable, il n'a pas pu le mesurer, donc il a lâché cette instruction, rebellez-vous, et ça s'est retourné contre lui. Dire ensuite, après, dans les quartiers, après, il faut aller dans le détail, moi, je retiens des livres quand on pose la question qu'est-ce qui a pu manipuler une aile libérale qui aurait voulu faire avancer des réformes de marché. On m'a répondu une fois dans c'est les présidents du comité les présidents des comités de supporters, les présidents de clubs. Enfin, à l'époque, ça pesait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça pèse pas beaucoup de choses aussi non plus, parce que sinon on aurait canalisé autrement les foules. Donc ça reste très faible. Par contre, effectivement, le président de la République a créé cet appel d'air.
D'accord.
Juste pour, non pas rajouter un mot, mais en tout cas converger, hein, puisque ça a été un terme qui a été utilisé, je vais encore dire, les conditions objectives étaient là. Qu'il y ait manipulation, oui, mais je veux dire encore une fois, c'est pas l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de, je dirais, c'est dans la forme qu'a pris la révolte que là, effectivement, peut-être il y a eu manipulation, et sûrement même. Mais les conditions étaient là, il ne faut pas oublier que l'essentiel sont les conditions. La forme qu'a prise ces manifestations, c'est, on peut en parler également. Mais toujours garder à l'esprit que les conditions d'une explosion étaient réunies. Et tout ça doit nous faire penser à aujourd'hui, d'une certaine façon, sur les conditions de l'explosion. Okay. Ça, on en parlera plus tard.
Un rappel, on est sur le centenaire de la révolution d'octobre, mais avant la révolution d'octobre, il y a eu la révolution de février. Les partis d'avant-garde de la scène russe de l'époque n'ont pas vu arriver cela. Le février, c'était un mouvement spontané, mais les conditions étaient là. Il y avait la guerre, il y avait la misère, il y avait un mouvement pacifiste, il y avait un mouvement de désertion de l'armée russe, du tsar. Et après, quand c'est parti parce que tout ça avait convergé. Les partis se sont replacés très vite parce qu'ils étaient prêts, ils étaient en configuration de combat. Mais il y a dans des grandes histoires ce type de scénario où les choses peuvent partir d'elles-mêmes. Parce que le contexte, il est favorable.
Oui, non, je voulais préciser, moi, quand je parle d'apprenti sorcier, c'est pas pour réduire le mouvement à la manipulation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une crise de régime entre des forces qui voulaient aller vers le libéralisme, vers l'ouverture au marché, et des forces qui étaient opposées ou qui voulaient y aller en maîtrisant les rythmes. Il y avait une nuance, d'une palette de positions. Et on le voit bien, je veux dire, que ça soit la constitution de février 89, qui est arrivée quand même quelques mois après octobre. On ne peut pas dire qu'elle a été arrachée par le mouvement populaire et démocratique. C'est une initiative du pouvoir qui avait pour objectif de répondre à des problèmes internes au régime, des contradictions, et régler des contradictions internes au régime. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un intérêt conjoint, à un moment donné, entre la population qui en avait marre de ce régime de dictature et qui se révoltait, pour des raisons à la fois économiques, sociales, mais aussi politiques, et en même temps une aile du pouvoir qui avait intérêt pour se débarrasser de l'aile bureaucratique qui la gênait dans son projet politique, qui avait intérêt à une ouverture démocratique. Je crois que c'est cette conjonction-là qui a donné par la suite cette transition, cette ouverture démocratique. Je parle des mois qui ont suivi octobre et des années qui ont suivi octobre.
Très bien, donc sur ce, ça veut dire, quand on parle du contexte, je veux bien aborder un autre sujet, parce que le mouvement est là. L'explosion, elle est venue. Mais après, on a vu que les islamistes ont contrôlé le mouvement. Donc la question qu'on pose, que d'ailleurs des gens, les Algériens posent, on a vu l'absence, ce n'est pas l'absence, mais des forces progressistes. Il y a le mouvement, par exemple, berbère, qui était un mouvement quand même démocratique, d'essence démocratique. Mais des gens, ça veut dire qu'on n'a pas vu un rôle concret. Bon, c'est des débats qui existent dans la société. Le rôle, par exemple, du mouvement berbère, le rôle des militants progressistes un peu partout, qui est active dans la clandestinité. Donc le mouvement a été récupéré par les islamistes. Est-ce que c'est la force des islamistes ou est-ce que c'est une erreur ou une faute tactique des progressistes à l'époque? Donc où est le problème?
Ce n'est pas les mêmes ordres d'échelle, hein. Il faut bien être conscient. C'est pas les progressistes travaillaient sur faire progresser les élites de la société sur des questions démocratiques. Et donc, quand cela a été possible de mobiliser, ces forces de progrès ont mobilisé dans les élites. Ça a donné le comité contre la torture, qui a quand même fait une pression de type démocratique sur le pouvoir après octobre 88. Ça a donné des mouvements de toutes sortes, le mouvement femme qui a pu se reconstituer très vite et dès le premier 8 mars qui a succédé, occuper la rue. Mais les classes populaires, la grande masse était travaillée depuis plus longtemps à une échelle infiniment plus grande par les islamistes, parce que en l'absence de cadres organisés, les partis politiques, les associations, en l'absence de liberté, c'était le réseau des mosquées. Et comme il y avait un élan de religiosité montante dans la société algérienne, c'est par le réseau des mosquées que le discours radical d'opposition au régime de Chalid Mejdid s'était développé. Et ça, on a pu le voir. En fait, on en a vu une première manifestation en 82, après l'assassinat de Kamel Amzal. Il y a eu un rassemblement qui était la première sortie publique des islamistes en Algérie depuis l'indépendance, qui a réuni plusieurs milliers de personnes à la fac centrale, qui a été réprimée. Et donc, il y a eu une parenthèse, 82-88. En 88, ce mouvement avait continué à se développer en underground. Malgré l'arrestation des chefs, Ali Belhadj a fait de la prison à Lambez et d'autres, Sultani et d'autres aussi. Et ce mouvement n'a pas reculé parce que les conditions de son émergence n'ont pas. Il y a eu la répression, mais il n'y avait pas de canaux d'expression et la religiosité était là. Et la radicalisation de la jeunesse est passée par le réseau des mosquées. Après, c'était facile de récupérer parce qu'avec les mosquées, les rassemblements dans la rue, c'était les mosquées qui les assuraient.
Le pouvoir n'a pas favorisé les islamistes au détriment des démocrates.
Au début du processus, au moment du printemps berbère, peut-être, en laissant les islamistes réprimer les militants progressistes et démocratiques. Plus tard, c'était sans problème numéro un, c'était les islamistes.
Alors, toujours dans le même ordre d'idées, mais on va augmenter la focale. Je pense que si on prend toute la région, il faut se dire qu'à un certain moment, les idéologies non religieuses, que ce soit le socialisme ou autre, dans nos pays, dans les pays arabo-musulmans, ont failli. La défaite de Nasser en 67 et autres ont remis en cause, je dirais, cet horizon de sens qu'avaient les populations par rapport à ces idéologies. On est rentré dans un vide idéologique, et vous savez la nature horreur du vide. L'islamisme en tant qu'idéologie, en tant que mouvement caritatif, en tant que force politique, a pris une forme d'hégémonie culturelle, parce que là aussi, les islamistes ont été gramsciens. Ça veut dire qu'ils ont construit une hégémonie politique à travers le système scolaire et autres, qui fait de par nature, la religiosité a pris, une place prépondérante dans les raisonnements. Et c'est pour ça que bien souvent, moi je dis, il faut à un certain moment sortir du cercle de cette raison islamiste pour déboucher sur autre chose. C'est encore un des enjeux qui sont aujourd'hui en place. Après, sur la manipulation, c'est chaque pouvoir a pour objectif de se maintenir. S'il arrive à équilibrer entre les forces antagonistes pour rester l'arbitre, il le fait. Ça, je pense qu'il ne faudrait pas être naïf sur la nature, non pas juste du pouvoir algérien, mais sur la nature de tout pouvoir. Je ne vais pas vous citer Machiavel ou autre, je dirais sur le béaba. Sinon, on est naïf sur l'interprétation, et je dirais même ce qui pose encore problème, parce que je reviens toujours ici et maintenant, sur notre possibilité d'agir sur l'avenir. Je crois que il y a des leçons de 88, nous en avons tiré certaines, il faut continuer à tirer des leçons, parce qu'effectivement on est passé d'un régime dictatorial, mais nous sommes dans un régime autoritaire.
Impensable démocratique.
Et nous sommes aujourd'hui dans un... qui bien souvent, aujourd'hui, délaisse même la façade démocratique. On est dans un raidissement de l'autoritarisme. On est passé d'un autoritarisme débonnaire, un autoritarisme qui devient de plus en plus, je veux dire, dur comme carcan, et je dirais, dans lequel on est confronté tous.
Oui, c'est, là aussi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas parler de manipulation. C'est-à-dire qu'il y a des forces politiques et sociales qui défendent des intérêts et qui mènent un combat politique. Je crois que le pouvoir a utilisé l'islamisme. Ce n'est pas de la manipulation. On voit par exemple qu'un Abbessi Madani est un ancien du FLN. On voit qu'il y a eu des... Par exemple, dans les années 70, Boumediene a lancé un processus de développement économique moderniste, etc. Mais il a confié tout ce qui était culturel, idéologique, la scolarité, etc., à des courants, disons, arabo-islamistes ou islamistes. Et donc, cette hégémonie, elle s'est construite à la fois... parce qu'il y avait des noyaux islamistes qui étaient aidés aussi, y compris par l'Arabie Saoudite et par d'autres pays qui travaillaient depuis les années 60-70, par des couches sociales qui avaient intérêt, par exemple tous les gens qui étaient opposés à la réforme agraire, qui ont utilisé le réseau des mosquées avec la loi des associations en 1971 pour pouvoir créer un réseau de mosquées qui échappe à l'emprise du pouvoir, parce que le pouvoir à l'époque avait le monopole de la manipulation de la religion ou d'utilisation de la religion. Donc les islamistes lui ont contesté cela. Et effectivement, il y a aussi la crise sociale qui fait que des pans entiers de la jeunesse se sont tournés vers un mouvement qui critiquait à la fois le capitalisme, le libéralisme, et à la fois le socialisme, et qui se présentait comme une alternative, en plus s'appuyant sur la révolution iranienne, qui était à son summum et qui avait de l'aura. Et donc, le mouvement islamiste est devenu hégémonique, d'abord en 82, comme le rappelait Yassen, en demandant à l'État d'appliquer la charia, en passant ensuite en partie à la lutte armée au cours des années 85-86, dans la Métidja, et ensuite en s'organisant en parti politique avec l'ouverture d'octobre 88 pour à ce moment-là non plus demander une application de la charia, mais combattre pour l'instauration d'une république islamique dirigée par ces partis. Et ce qui fait que en réalité la question, la revendication démocratique n'était pas hégémonique dans la société. C'est ça le drame de l'opposition démocratique, au-delà des erreurs ou des limites des partis politiques, etc. C'est que dans la société, à part les segments dont on a parlé tout à l'heure, le MCB, les femmes, etc., des avant-gardes, effectivement, des élites, au plus profond de la société, la revendication démocratique n'était pas une revendication. Et c'est ce qui me fait dire que la transition démocratique était condamnée dès le départ parce qu'elle masquait un processus plus profond. Personnellement, j'ai appelé processus fascisation sur la base d'une certaine analyse du fils. Bon, mais sans rentrer là-dedans, disons un processus d'islamisation, en tout cas de défense d'une perspective d'un régime islamiste. Et ce qui a amené à l'avortement, c'est-à-dire qu'on avait les deux forces principales, c'était un pouvoir qui avait lâché du lest pour régler des problèmes internes, mais qui n'entendait pas aller jusqu'au bout du processus démocratique, parce que ça aurait signifié sa fin, et un mouvement islamiste, et ils sont restés dans un tête-à-tête, et le reste ne pesait pas.
Justement, nous allons revenir sur le rôle de l'élite et des forces progressistes et démocratiques dans la deuxième partie de ce débat. Donc, cette première partie est consacrée au contexte, auditeurs et auditrices. On revient après le jingle.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
aux auditeurs et auditrices de la web radio du Rage. On revient dans cette partie de notre émission. Je rappelle que nous avons avec nous M. Qadi Hassan, qui est journaliste, directeur du journal Maghreb Émergent, Hossein Belaloufi, qui est journaliste aussi et essayiste, et aussi avec nous M. Sami Ousdiq, ancien banquier et coordinateur du mouvement Ibtikar. Donc, dans la première partie, nous avons parlé du contexte du mouvement d'octobre 88. On a fait le tour. Dans cette deuxième partie, on va parler un peu de 29 ans après octobre 88. Donc, c'est l'anniversaire. On commémore cette date importante. Donc, je veux bien avoir une idée sur si on compare la période avant octobre. Donc, il y a la chute du prix du pétrole, la crise financière, donc les caisses de l'État sont vides, il y a une crise au sein dans les sérails, donc au sein du pouvoir. Donc si on fait 29 ans après, donc on est presque dans la même situation. La chute du, même si les, ça veut dire la situation elle est un peu différente, c'est pas, mais on est en plein, il y a la chute du pétrole, les caisses de l'État sont vides et la lutte au sein dans les sérails du pouvoir, elle n'est pas un secret, donc elle est flagrante. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a lieu de comparer entre les deux étapes avant octobre 88 et 29 ans après?
Je ne suis pas obligé de commencer. Hein.
Voilà, donc c'est
alors, aussi. Alors, écoutez, on peut toujours tout comparer, hein, mais je pense que la comparaison, pour le coup, a des limites. On a dit qu'effectivement, c'était une crise multidimensionnelle. C'est une crise inédite, autant dans son ampleur que dans sa profondeur. Quelques chiffres très simples. Hein. Nous sommes 40 millions aujourd'hui. Nous étions une vingtaine de millions dans ces années-là, ou un peu plus, 25 millions. Nos réserves gazières et pétrolières allaient jusqu'à 2015. Aujourd'hui, on a connu le picole, elles sont en train de retomber. Notre niveau de vie, vous savez, on a créé une fausse classe moyenne grâce à l'argent du gaz. Hein. On a gonflé cette classe-là. On a donné des habitudes qui sont totalement... Et je veux dire, aujourd'hui, avec l'argent que nous allons avoir encore, nos recettes, qui sont intenables, ces conditions-là. Et puis, du point de vue, je dirais, de la situation sécuritaire, entre-temps, il y a eu une guerre civile. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société qui est sous l'empire de la peur. Hein, nous le voyons tous les jours. Donc la capacité, encore une fois, de se mobiliser aujourd'hui. En 88, la société avait peur, mais il n'y avait pas eu entre-temps les massacres qu'il y a eu. Donc ça, c'est quelque chose qui se tient. Et puis, aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. En 88, on se disait qu'il y avait un avenir possible pour des raisons que je viens de vous énumérer. Aujourd'hui, on est moins enclin à penser à un avenir possible. C'est-à-dire que la révolte, aujourd'hui, sur quoi doit-elle déboucher? Et là, sûrement on en reparlera, c'est celle d'une alternative crédible. Aujourd'hui, face à cette catastrophe, il n'y a pas d'alternative crédible. Ça ne veut pas dire que c'est là un constat, je veux dire, d'échec. C'est surtout un constat pour dire que cet avenir est aujourd'hui urgemment à construire.
Ok. Monsieur Hossein ?
Oui. Bon, effectivement, c'est toujours difficile de comparer ou de prévoir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on n'est pas dans une situation identique à celle d'avant octobre 88. D'abord, je pense que, bon, quand on dit les caisses sont vides, mais en fait, elles ne sont pas si vides que ça. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas encore pris à la gorge. Il reste de l'argent dans les caisses. Il y a des imprimantes pour faire utiliser la planche à billets. Le pouvoir a encore une marge de manœuvre.
Il a encore le gaz de schiste.
Oui, il a encore une... Voilà. Donc après le pétrole, c'est encore le pétrole et toujours le pétrole. Donc je crois qu'ils ont une marge de manœuvre. Le pouvoir a une force de répression qui est quand même très puissante. Il bénéficie d'un certain attentisme parce qu'on a vu ce que ça a donné, les révoltes en Libye, en Syrie, etc. Donc les gens ne sont pas prêts à aller s'exposer, à risquer leur vie, etc. Pour en réalité détruire dans une logique nihiliste. Mm-hmm. Donc il joue là-dessus sur cet attentisme. Je veux dire qu'il a quand même des atouts en main que n'avait peut-être pas... Il n'a pas d'endettement extérieur. Donc il a encore des atouts. Bon, ces atouts-là peuvent rapidement disparaître en fonction de l'évolution de la situation du marché pétrolier, parce que c'est ça qui, jusqu'à présent, détermine l'état de la situation. Mais il a encore une marge de manœuvre. Et puis en face, bon, il y a quand même des choses qui n'existent plus. Par exemple, les partis politiques qui étaient clandestins étaient plus forts qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient plus forts, pas forcément en termes de, numérique, etc., mais ils avaient un ancrage réel. Je pense au PAC, je pense au FFS, je pense à l'extrême gauche, qui avait,
Aux islamistes.
Voilà,
les islamistes. Un travail de proximité.
Qui avaient des liens avec le mouvement social, l'UGTA, qui était un enjeu de lutte, qui n'était pas complètement caporalisé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où, malheureusement, il n'y a pas d'opposition. C'est pour ça que moi, je pense qu'on n'est pas à la veille d'un octobre. Bon, je peux être démenti par la réalité, mais je ne crois pas qu'on soit à la veille d'un octobre. Et personnellement, je ne le souhaite pas, parce que je ne vois pas sur quoi ça pourrait déboucher. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas d'alternative immédiate, et il ne faut pas chercher des raccourcis. Il faut construire un mouvement populaire, démocratique dans ce pays, en tenant compte des rythmes objectifs de sa construction. Des syndicats autonomes qui se construisent à leur rythme, des gens qui, à l'intérieur de l'UGTA, se battent, malgré la chape de plomb de la bureaucratie, mais se battent, mènent des luttes, etc. Des mouvements sociaux, des mouvements démocratiques, comme à Abjaïa, on l'a vu avec l'affaire de la Ligue des droits de l'homme, de café-théâtre
littéraire
d'Aoukas, etc., d'Abjaïa, etc. C'est-à-dire qu'il y a des luttes démocratiques, il y a les chômeurs, il y a des mouvements sociaux, etc. Il s'agit de construire ces mouvements-là et de les faire converger autour d'un programme, rassembleur. Et ça demandera du temps. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, malheureusement, il n'y a pas d'alternative à court terme.
Hossein, donc, malgré la crise économique, politique et financière, donc, un autre octobre, il n'est pas encore à l'ordre du jour.
Moi je suis totalement d'accord avec la première partie de l'intervention de Hossein Belaloufi sur le comparatif et sur qu'est-ce qui diffère. Je pense qu'il a bien touché du doigt les différences. Il y a plus d'atouts pour le régime aujourd'hui. Il y en a au niveau économique avec cette marge dont il dispose. Il y en a au niveau symbolique avec ce qui s'est passé dans les années 90 qui fait peur encore aux Algériens, mais peut-être pas aux mêmes Algériens, parce qu'en termes générationnels, c'est en train de changer et de changer vite, et j'y arrive. Et toujours au niveau symbolique, la dérive des printemps arabes qui a pesé lourdement sur la capacité de s'indigner des Algériens et de bouger. Et donc, je dirais aussi, il y a une différence notable, c'est qu'aujourd'hui, il y a Samuel Seder qui est avec nous aujourd'hui, qui avec son mouvement Ibtikar réfléchit sur les solutions de la crise. Il y a le think tank Nabni, il y a une créativité qui est en dehors du régime, qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, il y avait une cellule des réformateurs à la présidence de la République autour de Mouloud Hamrouche pour essayer d'envisager une Algérie réforme de marché, qui n'avait pas envisagé l'étage de la fusée démocratique. Ça, c'est octobre qui l'a amené. Mais aujourd'hui, on a quand même cette possibilité avec quelques ONG dans le mouvement social et tout, qui peuvent contribuer à construire une alternative qui ne soit pas une alternative de rupture, qui ne soit pas une alternative qui passe par un octobre 88. Il n'en demeure pas moins que moi, je n'irai pas jusqu'à dire que les conditions ne sont pas là pour... Parce que dire qu'il faut qu'il y ait une construction d'espace démocratique, d'instruments dans la durée, on est dans un schéma classique où le changement... suit de façon linéaire l'organisation d'abord des élites avant d'être portée par un mouvement de masse. Et on a vu dans l'histoire, octobre on est une démonstration, que ça peut se passer différemment, et ça peut être la rue et les jeunes et ceux qui sont exclus, ceux qui n'ont pas, qui sont pas acteurs, qui déboulent dans un paysage et qui en changent la donne et qui font que après tout s'organise différemment. Quand on parle comme ça, on parle un peu comme Salih Hadj. C'est-à-dire Salih Hadj, quand les activistes ont été le voir après le congrès d'ONU, il a dit on fait rien tant qu'on n'a pas résolu la crise du PPM-TLD, en fait tant qu'on ne se serait pas débarrassé des centralistes qui empêchent le déclenchement. Et les choses se sont passées différemment. Mais évidemment, ce sont des acteurs d'avant-garde qui ont fait que les choses se soient passées différemment. Voilà, il faut être prudent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hossein. Je reste plus réservé sur l'impossibilité de l'avènement d'un mouvement dans le court terme. Et j'ajouterais quand même que moi je le souhaite, à condition, je souhaite un octobre 88 à condition qu'il intègre les dérives d'avant
et qui n'aille pas dans la violence. Et c'est vrai que là, on peut être très sceptique parce que qui peut encadrer, empêcher que la violence ne déborde tout de suite,
etc.
Mais un mouvement, mais une situation où il y a une irruption à nouveau des jeunes, des citoyens dans l'espace public pour changer la donne, à mon avis, est souhaitable.
Alors, vous savez, je vais continuer dans cette veine-là. Il y a une définition de la politique qui est « la politique sert à gérer pacifiquement des différences et des conflits d'ordre politique, économique dans une société ». Lorsque vous enlevez la politique du jeu, c'est la violence qui prend, je dirais, le pas sur les choses. Et ça, nous sommes dans cette situation. Ce pouvoir-là, à vouloir interdire toute manifestation politique, et quand je dis politique, c'est au-delà du partisan, qu'on soit bien clair, hein. Eh bien là, vous faites encore le lit à la violence, parce qu'effectivement, je rejoins mon ami Khadi Hassan, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait les conditions paisibles, je dirais, d'un processus qui prend du temps. Malheureusement, l'histoire est beaucoup plus tragique que cela. Et nous le savons et nous avons payé en tant que peuple et nation pour cela. Alors, aujourd'hui peut surgir autre chose. Et je dirais, sur un autre point, sur la question économique, permettez-moi juste de vous dire une chose. Oui, il reste encore l'endettement extérieur. Oui, il reste encore du pétrole et du gaz de schiste. Mais ça, je dirais, c'est l'écume des vagues. Juste, je vais vous dire trois choses. Un, premièrement, on parle de passer d'une rente à une autre. Ça veut dire du gaz naturel au gaz de schiste. Sauf le prix de revient du gaz du schiste est beaucoup plus cher. Deuxièmement, le marché mondial est saturé en termes de gaz. Et je vais vous donner une information dont on parle peu souvent. C'est que cette année, hein, tous les grands contrats à long terme de vente de gaz de l'Algérie arrivent à échéance. Or, ces contrats permettaient d'avoir un prix au-dessus du marché et surtout avec des quantités garanties sur 20 ans. Aujourd'hui, le marché est bas. On va sur ce qu'on appelle un marché spot. Ça veut dire chéri sur le marché. Les prix baissent de 30%. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que même notre gaz va mécaniquement, du fait de son retour à des contrats journaliers plutôt que des contrats à long terme, baisser. Et puis, attendez, je pense qu'au-delà du prix, il faut le dire, le gaz naturel, nos réserves baisse, nous on consomme de plus en plus le gaz que nous pompons, l'essence on importe du... Ça veut dire que d'une certaine façon on va être un pays à terme importateur d'une partie de notre énergie si nous restons sur ce mode-là. Ça veut dire que ces ressources-là dont on parle des hydrocarbures, l'idée de cette rente qu'on est soit un pays pétrolier ou gazier qui peut subvenir à ses besoins, il faut l'oublier. Et deuxièmement, la capacité d'endettement qui est la nôtre, qui est aujourd'hui effectivement parce qu'on n'est pas endetté, hein, Ceausescu aussi n'était pas endetté à cette époque-là. Hein. Je veux dire, n'oublions pas que nous allons retourner, je l'ai écrit, le Kadi l'a vu, en 2014, quand il était à $120, j'ai dit nous allons retourner à moyen terme sur le marché de l'endettement. C'est mécanique. Et nous allons retourner sur le marché de l'endettement dans les pires conditions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais très simplement, quand vous allez emprunter, quelles sont vos capacités de remboursement dans un pays qui est mono-exportateur, dont la seule richesse est une matière première dont les cours baissent et dont vos réserves baissent. Donc on va nous mettre des taux d'endettement qui vont très vite faire face, à quels on doit faire face. C'est toutes ces conditions. Alors, ne gardons pas ça en devers nous, intégrons-le dans notre raisonnement. Et puis, permettez-moi de vous dire, c'est bien ce qu'on gagne, hein, mais posons-nous la question de ce que nous dépensons. Aucune rationalisation budgétaire, un train de vie supérieur pour certains Algériens, et pas tous, on soit d'accord. Le mode de consommation qui a été le nôtre n'est plus tenable compte tenu de ces conditions-là. Et là, c'est un des ferments qui peuvent alimenter un embrasement quelque part. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'un boisésier algérien.
D'accord. Fossil ?
Oui. Que dire ?
Non, sûr, ça veut dire un autre octobre.
Oui, non, c'est moi j'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'un octobre à court terme. Encore une fois, ça peut arriver demain ou ce soir, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que les conditions soient réunies, parce qu'octobre, on l'a vu venir quand même. Hein, on l'a vu depuis des années, des mois avant, on voyait venir. Chaque jour, on se disait « Wainadat liyom, liyom fi tizi, liyom fi waharan, liyom fi khsantar ». Donc là, je pense que ça n'est pas encore le cas. Et pourquoi j'ai dit « je ne le souhaite pas », c'est parce que je pense que malheureusement, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de... Bon. je donne un exemple historique. Yassine parlait tout à l'heure de la Révolution 17. Marx était contre l'explosion de la Commune de Paris. Au départ, il ne voulait pas qu'il y ait une explosion à Paris. Quand elle est venue, il l'a soutenue. Donc si effectivement il y a un mouvement populaire qui se bat, on ne peut que le soutenir. Mais en termes de stratégie politique, c'est-à-dire de pari sur la possibilité que ça se transforme en quelque chose de positif qui débouche sur quelque chose de qualitativement supérieur, malheureusement, je ne vois pas sur quoi ça peut déboucher. Parce que il n'y a pas, disons, il y a aussi un ressort qui a été cassé dans la société. C'est-à-dire on n'est pas sorti indemne de 10 ans de guerre civile. On n'est pas, selon mon point de vue, sorti indemne de 30 années de politique libérale qui a brisé aussi la cohésion de la société algérienne. On est atomisé dans cette société. Les voisins se méfient les uns des autres. Il y a on voit des exemples à droite, à gauche, de gens qui font du volontarisme, qui font des volontariats pour nettoyer leur cité, pour évacuer les ordures, etc. Mais globalement, la société est encore atomisée et elle est pas. Il n'y a que des noyaux qui se battent, effectivement. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Maintenant, si demain il y a une explosion, il faut être effectivement avec...
Justement, ça veut dire sur cette question, parce qu'on parle d'un éventuel octobre, d'une alternative démocratique. Donc, qui va la construire? C'est des forces qui existent. Mais actuellement, est-ce que sur le terrain, on peut constater qu'il y a des forces progressistes, il y a des partis politiques, des syndicats autonomes, des associations qui sont capables d'encadrer une explosion sociale, si elle est venue, ou d'amorcer ou de proposer une alternative démocratique? Et donc cette alternative démocratique, pour qu'elle soit concrétisée, il faut qu'il y ait un rapport de force. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'absence de ce rapport de force qui doit être fait par les forces démocratiques composées de partis politiques, syndicats, associations et mouvements sociaux.
Non, je voulais juste, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Samy tout à l'heure, en disant que les islamistes avaient gagné la bataille pour l'hégémonie culturelle dans la société. Eh bien, il faut mener la bataille pour acquérir l'hégémonie sur la question démocratique, parce que ça n'est toujours pas le cas. Les Algériens peuvent se dire à la limite démocrates à Agda, mais ils ne sont pas prêts à se battre concrètement et à faire les sacrifices nécessaires pour porter le projet démocratique. Donc il y a un travail à faire. De même que l'indépendance dans les années 1920 était une exigence nécessaire, il fallait la revendiquer, mais les conditions de sa réalisation n'ont pu s'opérer que 30 années après. C'est-à-dire qu'il a fallu gagner d'abord la population à l'idée, à travers des crises, à travers des expériences, le 8 mai 45, etc., le combat des partis politiques, pour amener, à la suite de crises, y compris dans le mouvement national, à l'émergence d'une alternative. C'est ça que je ne vois pas aujourd'hui du côté des forces qui se battent pour la démocratie.
Oui, juste une précision pour clarifier une chose. Hein. Lorsqu'on parle de l'éventualité d'un 5 octobre, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on l'appelle de nos voeux. Il faut qu'on soit bien clair. On ne dit pas aux gens « sortez dans la rue, refaites la même chose ». Maintenant, il ne faut pas se tromper. Et bien évidemment, toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais dans l'histoire, jamais toutes les conditions sont réunies. Il faut se le dire. C'est des schémas purs et ça ne fonctionne pas comme ça. On parlait de la Russie, plutôt de l'URSS. Parlons de la Chine. Compte tenu de la doctrine marxiste, elle n'aurait jamais dû bousculer puisqu'il n'y avait pas de prolétariat. Il y avait une paysannerie. Donc moi, je reste circonspect quant à la réunion de toutes les conditions objectives pour que les choses changent. L'histoire nous a appris que malheureusement, ça ne se passe jamais ainsi.
Ou qu'heureusement, ça ne se passe jamais ainsi.
On peut le dire pour nous dans ce cas-là. Mais je parle bien sûr à la référence du schéma idéal et idéel. Hein, voilà.
Oui, enfin, globalement, je partage le scepticisme, effectivement, Hussein est réaliste. Hein, bon, je pense que. Mais j'ai envie quand même d'introduire aussi des éléments d'optimisme, parce que sur l'hégémonie culturelle des idées démocratiques, c'est vrai qu'on est loin du compte par rapport à ce que pèse l'idéologie islamiste et la religiosité dans la société. Mais on peut dire que par rapport aux élites, il y a eu un progrès, c'est-à-dire que l'impasse des années 90, l'horreur de l'insurrection islamiste, de ce qu'elle a provoqué avec cette utopie de l'État islamique, etc., la répression violente de l'État, nous ont donné quand même... Moi, je considère que avoir eu Zeralda après 2014, et une plateforme commune des partis politiques, c'est juste les élites, c'est les partis politiques dans l'état où ils sont après tout le processus dont on a parlé, c'est quand même une bonne plateforme. Il faut quand même noter que Ali Belhadj voulait en être. Ali Belhadj voulait rejoindre cette plateforme-là et s'aligner sur une revendication, un code d'honneur, alternance au pouvoir, respect des minorités, etc. C'est très important. C'est-à-dire que là, on a des éléments qu'on n'avait pas avant, qui, si demain il y a une poussée populaire, dont on souhaite qu'elle prenne une forme, moi je souhaite qu'elle prenne une forme pacifique, mais je la souhaite quand même, il y a le risque de dérapage, mais je ne vois pas comment ça peut se débloquer autrement. Si ça se produit comme ça, on a peut-être la possibilité de faire une conjonction plus rapide avec des partis politiques qui peuvent se remettre en mode mouvement avec la radicalisation du mouvement populaire, etc. Je veux aussi citer les quelques mouvements qui sont apparus depuis 2014 et qui sont aussi l'expression d'une forme, on va dire, d'expression autonome de la société, le mouvement des jeunes chômeurs dans le sud, le mouvement qui a bloqué le gage de schiste à Ensala, qui est un mouvement citoyen complet, les syndicats indépendants qui sont une coordination qui a fonctionné, qui a un potentiel de mobilisation qui existe toujours. Il y a des noyaux dans la société qui sont faibles, c'est vrai dans le contexte d'aujourd'hui, mais qui peuvent très vite demain faire jonction entre elles et avec un mouvement si ce mouvement devait faire éruption. Donc tout de ce point de vue-là n'est pas si en retard que ça.
Donc la matière est là, donc à travers ces mouvements qui peuvent...
Ça reste faible, qu'on s'entende bien. Voilà, oui. Mais on ne part pas d'une table rase, c'est important. On ne part pas d'une table rase.
Très bien. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette émission, de ce débat vraiment riche et fructueux. Donc pour terminer, je vous donne un mot pour clôturer.
Alors, la prochaine année, c'est le 30e anniversaire. J'espère qu'on retrouvera Raj dans un grand studio avec des très bons moyens et la possibilité de fonctionner comme une association algérienne librement, sans être sous contrainte comme elle l'est en ce moment. Voilà, ça signifierait qu'entre-temps, il se sera passé quelque chose.
Oui, c'est un bon souhait. Ben, merci, je l'espère pour Raj et pour d'autres dynamiques.
Écoutez, on a parlé effectivement des noyaux ici ou là qui aujourd'hui prennent en charge certaines revendications. Vous en faites partie, j'en fais partie. Et il est temps aujourd'hui d'arriver à l'âge de la maturité. Ça veut dire que nous puissions converger ensemble pour un SMIC démocratique, quelles que soient nos différences politiques, parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'avenir de l'Algérie démocratique et prospère et avec une justice sociale. C'est ça qui doit nous unir au-delà. Et je vais vous dire juste un mot pour finir. Ceux qui prétendent nous gouverner ont une maxime. Ce qui les sépare ce qui les réunit est plus important que ce qui les sépare. Nous gardons malheureusement l'idée que ce qui nous sépare est plus important que ce qui nous réunit. Il faut qu'on change de dialectique et il faut qu'on renverse la dialectique, puisqu'on est dans une émission où on parle beaucoup de tout cela. Et bien, il est temps de le faire. Il est urgemment le temps.
Oui, donc pour aller dans le même sens, je pense qu'effectivement, il faut cultiver les jeunes pousses qui sont en train de naître ou qui sont déjà les consolider pour ceux qui existent déjà. Je pense simplement que, enfin moi, l'idée qui me semble importante, c'est que le combat démocratique sera un combat de longue haleine. C'est-à-dire, je pense que malheureusement, il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Il peut y avoir des explosions, effectivement. Il y en a eu en Libye, il y en a eu en Syrie, mais ça débouche sur quoi? Donc la question, c'est que s'il y a des explosions, il faut travailler pour qu'elles aillent dans le sens le plus intéressant du terme. Mais ça ne doit pas empêcher un travail de tous les jours, un travail quotidien de construction, de renforcement, pas des élites, mais des mouvements à la base, des mouvements comme le disait SN, de chômeurs, mouvements contre le gaz de schiste, etc.
Merci à vous, merci à Qadi Hassan, merci M. Samy Sadiq, Hossein Bilaloufi pour ce débat important, fructueux, autour de octobre 88. Quand même, octobre 88, malgré la douleur, malgré le prix cher que la société algérienne a payé, a suscité un certain espoir. Donc, on doit garder cet espoir, on doit être optimiste et continuer le combat d'une manière pacifique, effectivement, de créer des jonctions entre les différentes dynamiques qui résistent encore, qui existent en Algérie, et de trouver les dénominateurs communs autour desquels on va travailler ensemble. C'est de cette manière qu'on peut construire une alternative démocratique. Auditeurs et auditrices de la Web Radio Durage, voilà, merci pour votre attention.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.